À suivre la semaine de Jean-Baptiste Placa et une ode au panafricanisme après la décision du Ghana de dispenser de visa d'entrée les détenteurs d'un passeport africain. Le Ghana n'est que le 5e pays du continent à le faire. Et puis à suivre également la revue de presse de Catherine Potet. Mais d'abord, le sport. Bonjour Christophe Dérimjian.
Bonjour Gaëtan.
Du football à la une, petite sensation en Ligue des Champions, les doubles tenants du titre, les Égyptiens d'Al Ahly, battus lors de la 4e journée de phase de groupe, ça n'était pas arrivé depuis longtemps.
27 matchs exactement, et ça s'est passé sur la pelouse du CR Belouizdad qui avait pourtant encaissé un 6-1 en Égypte il y a 15 jours. Pas du tout le même scénario cette fois-ci, victoire 1-0 des Algériens à l'arraché, but de Naoufel Kassef dans le temps additionnel. Ça suffit pour empêcher le club du Caire d'obtenir tout de suite sa qualification pour les quarts de finale. Mais il reste en tête du groupe C devant Belouizdad qui a pris la 2e place. En attendant, l'autre duel de la poule aujourd'hui entre les Sud-Africains d'Orlando Pirates et le Stade d'Abidjan, les Ivoiriens, lanterne rouge et qui peinent à confirmer leur retour au premier plan dans cette compétition. Et c'est encore Claire Bargelès qui nous en parle de Johannesburg.
Le Stade d'Abidjan compte déjà une étoile sur son maillot puisqu'il était devenu le premier vainqueur ivoirien de la compétition continentale en 1966. Mais depuis les années 2000, le club a arrêté de briller. Arrivé en phase de groupe de la Ligue des Champions, une première en 54 ans et donc déjà une belle victoire. Cependant, le gardien Bamba Drissa ne veut pas s'arrêter là.
Déjà, nous sommes gonflés à bloc, c'est une histoire que nous voulons écrire. Tout un chacun, nous sommes prêts. On ne va pas faire des kilomètres de venir faire de la figuration. Nous sommes là pour tout donner, pour avoir un résultat positif et pouvoir rentrer chez nous et pouvoir continuer la compétition et aller encore plus loin.
L'équipe s'est choisie l'un des plus jeunes entraîneurs au monde. Alexandre Lafitte, 27 ans, guide les yéyés depuis près de 2 ans. Il a déjà réussi le tour de force de faire terminer le Stade d'Abidjan à la 2e place du championnat local l'année dernière et espère encore réaliser des exploits.
Il faut qu'on joue, il faut qu'on soit capable d'accepter de prendre des risques, d'aller les chercher haut. C'est vrai que le stade sera plein, mais après je pense qu'aussi sur les coups de pied arrêtés, comme on a fait le match précédent où on a marqué, il faudra insister. Donc c'est aussi un axe qui peut être intéressant.
Mais c'est depuis les tribunes qu'il devra suivre la rencontre, n'ayant pas encore obtenu l'équivalence de son diplôme européen pour la Ligue des Champions africaines. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Orlando Pirates, au Stade d'Abidjan, à suivre en tribune ou à la télé à 16h temps universel.
Et dans le groupe A, Christophe, obligation de résultat pour le tout-puissant Mazembe, mal parti dans cette phase.
Deux matchs nuls, une défaite, pas terrible les Corbeaux. 3e du classement, c'est le moment donc de faire un coup en Tanzanie chez les Young Africans à partir de 13h temps universel. Également au programme ce samedi dans le groupe B, les deux premiers face à face, le Raja Casablanca contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et l'autre club marocain, l'Asfar contre les Congolais RDC de Maniema. En embuscade à la 3e place, il est bien décidé à rester dans la course à la qualification, rappelle l'entraîneur Papi Kimoto.
On est venu ici avec beaucoup d'ambition, de ne pas déjà compromettre notre éventuelle chance de se qualifier. C'est crucial, mais ça ne va pas être décisif. Moi, je pense dans ces groupes, ça va jusqu'à la fin. C'est un match compliqué. Maintenant, on se connaît. On connaît très bien maintenant l'équipe des phares, avec ses forces et ses faiblesses aussi. On a eu suffisamment de temps pour préparer ce match. Parce qu'on se crée beaucoup d'occasions à chaque fois, à chaque match. Mais on marque peu. Et j'espère qu'il y aura des clics. Parce qu'on a eu vraiment suffisamment de temps pour travailler devant le but, pour essayer de concrétiser toutes nos occasions.
Papi Kimoto avec Olga Massongou. Les deux matchs de ce groupe B à 19h, temps universel.
Merci à vous, Christophe Diremjian. Et pour l'instant, il est 5h46 en temps universel.
RFI, toute l'actualité. Gaëtan Plenet.
Incompréhensible et regrettable réaction ce matin du ministère japonais de l'industrie, alors que le président américain Joe Biden a annoncé hier bloquer le rachat prévu du géant de l'acier américain US Steel par celui japonais Nippon Steel. Ça poserait des risques pour notre sécurité nationale et nos chaînes d'approvisionnement essentielles, s'est expliqué Joe Biden. Le président américain qui cédera sa place à Donald Trump le 20 janvier prochain, et ce dernier conserve l'un de ses soutiens au perchoir de la Chambre des représentants. Mike Johnson a été réélu speaker hier après seulement 2 tours de scrutin. En Corée du Sud, pro et anti Yoon Suk-yeol attendu dans les rues de Séoul aujourd'hui. Yoon Suk-yeol, président déchu, mais toujours en liberté malgré un mandat d'arrêt. Hier, les enquêteurs se sont présentés au domicile de l'ex-dirigeant pour l'interpeller, mais son service de sécurité et des soldats les en ont empêchés. Edmundo González Urrutia, l'opposant vénézuélien en exil qui revendique la victoire à la dernière présidentielle, doit rencontrer aujourd'hui les dirigeants de l'Argentine et de l'Uruguay. Il est d'ailleurs arrivé hier à Buenos Aires. On passe à la revue de presse internationale avec vous, Catherine Potet, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, Catherine, un appel pour soutenir les femmes afghanes.
Un appel lancé par le journal Le Soir. Ne laissons pas les talibans effacer les femmes afghanes, s'exclame le quotidien belge. Banni de l'espace public, privé d'éducation, les afghanes sont invisibilisés par le régime rétrograde des talibans qui mettent ainsi en péril l'avenir immédiat de leur pays, ajoute Le Soir, qui s'indigne de voir les Afghanes emmurées vivantes, alors qu'un nouveau décret oblige à barricader toutes les fenêtres qui permettraient d'apercevoir des femmes chez elles. Une étape de plus dans une politique visant à leur effacement complet de la vie publique, déplore le journal. Quelle réaction de la part de la communauté internationale ? Plusieurs pays ont mis en garde le régime des talibans contre un possible renvoi devant la Cour internationale de justice. Autant d'initiatives salutaires, reconnaît Le Soir, qui toutefois reste pessimiste, estimant que pour les jeunes afghanes privées de leur avenir, le temps de la justice internationale risque d'être bien trop long. Les Iraniennes, elles, ont constaté que leurs droits n'ont fait que se détériorer au fil des décennies. Quant aux Syriennes, poursuit Le Soir, elles sont partagées entre espoir et inquiétude. Elles retiennent leur souffle.
Les femmes syriennes, justement, la presse internationale tente de connaître leur état d'esprit après la chute du régime de Damas.
C'est ainsi que l'envoyé spécial de Mediapart s'est rendu à Idlib, qui pendant 7 ans a vécu sous le régime des islamistes de Hayat Tahrir al-Sham, désormais au pouvoir à Damas. La journaliste du site d'information français Rachida El Azouzi a rencontré une dizaine de jeunes filles au pied des escaliers de la faculté non mixte de sciences de l'éducation. Toutes portent un niqab noir qui ne laisse apparaître que leurs yeux. Des jeunes filles ravies de rencontrer une journaliste qui vient de Paris. Oui, Paris, la Tour Eiffel, s'exclame-t-elle. Ici, on a tout ce qu'il faut pour être heureuse et surtout, nous sommes libres, affirme Zainab, âgée de 28 ans, qui exprime son ras-le-bol d'entendre dans les médias occidentaux qu'Idlib serait une miniature de l'Afghanistan. On suit la charia, mais ce n'est pas Kaboul ici, dit-elle. Je peux étudier, travailler, conduire, me maquiller. Je porte le niqab, mais personne ne m'y oblige. C'est mon choix, mon corps. Toutefois, constate Mediapart, dans l'espace public dominé par les hommes, la couleur qu'il emporte quand on croise une femme demeure le noir du voile intégral. Tout en réduisant sa rigidité et en se transformant, Hayat Tahrir al-Sham a maintenu sa radicalité idéologique salafiste. Dans les restaurants de la ville, précise Mediapart, les femmes sont séparées des hommes, poussées derrière des rideaux à l'abri des regards masculins.
Et beaucoup d'interrogations donc sur le nouveau pouvoir à Damas, Catherine. Le quotidien italien La Repubblica s'inquiète d'une dérive religieuse.
Les islamistes changent le contenu des manuels scolaires, assure La Repubblica, affirmant que la défense de la patrie devient ainsi la défense d'Allah. La plupart des changements, ajoute le journal, concernent la suppression des références à l'ère Assad, tant à Bachar qu'à son père, Hafez. Mais ce n'est pas tout. Selon La Repubblica, Nazir El-Kadri, qui était auparavant ministre de l'éducation dans l'administration d'Idlib, a également suggéré d'éliminer l'étude de la théorie de l'évolution. Il aurait aussi demandé de corriger une interprétation à ses yeux erronée d'un verset du Coran mentionnant « ceux qui ont mérité la colère d'Allah », le traduisant par une référence aux chrétiens et aux juifs. L'ancien ministre, précise La Repubblica, se défend en assurant qu'il ne s'agit que de propositions. Mais sur sa page Facebook, nous dit le quotidien italien, les commentaires du type « qui vous a donné le droit d'effacer l'histoire de la Syrie » se multiplient.
Merci Catherine Potet. On vous retrouve après le journal de 8h heure de Paris pour une nouvelle revue de presse. Et bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Gaëtan Plenet.
Comme chaque samedi sur RFI, vous venez nous livrer votre version, votre regard sur l'actualité africaine de la semaine qui vient de s'écouler. Et ce qui a notamment retenu votre attention ce matin, c'est la dispense de visa d'entrée au Ghana pour les détenteurs d'un passeport africain. C'est entré en vigueur en ce début d'année et c'était l'un des vœux les plus chers des panafricanistes. Est-ce que ce n'est pas là, Jean-Baptiste, une preuve que l'Afrique évolue dans le bon sens ?
Il faut évidemment s'en réjouir, mais comment ne pas déplorer en même temps que seuls 5 des 55 États du continent concèdent une telle évidence aux Africains. Plus de 60 ans après la création de l'organisation panafricaine, ces chiffres sont une affligeante indication du peu de foi qu'inspire aux États l'idéal panafricaniste, surgi durant le dernier tiers du 19e siècle, des âmes meurtries des Noirs d'origine africaine installés dans les Antilles anglaises et aux États-Unis d'Amérique. Respect pour le Rwanda, les Seychelles, la Gambie, le Bénin et donc enfin le Ghana, patrie du docteur Kwame Nkrumah, le plus fervent chantre du panafricanisme en terre africaine. L'on ne cessera cependant de s'étonner que les autres ne comprennent pas que le droit pour chaque Africain de circuler librement dans toute l'Afrique relève du bon sens élémentaire. Surtout sur un continent où autrefois même les bergers et leurs troupeaux suivaient leurs itinéraires au gré des verts pâturages sans aucune contrariété de frontières. Il ne sert à rien de se gargariser d'envolées panafricanistes si c'est pour ensuite tenir à distance ses voisins les plus immédiats, voire leur fermer sa porte. Les peuples qui se barricadent dans le rejet des autres n'ont jamais été nulle part les plus heureux de la terre. C'est justement l'esprit d'ouverture de son premier président qui a par exemple valu à un pays comme la Côte d'Ivoire de connaître la prospérité qui lui vaut encore aujourd'hui une place centrale en Afrique de l'Ouest.
Et vous faites ici référence à Félix Houphouët-Boigny qui ne passait pourtant pas pour le plus panafricaniste des dirigeants africains.
Le panafricanisme véritable s'apprécie par les actes et non par les seuls discours. Félix Houphouët-Boigny, à qui l'intelligentsia de gauche reprochait en effet de préférer son pays à l'Afrique, était un des rares, sinon le seul dirigeant africain à accorder jusqu'à sa mort le droit de vote à tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest résidant en Côte d'Ivoire depuis plus de 5 ans. Et Abidjan était une ville où l'on pouvait dénombrer des citoyens de toutes les nations africaines, surtout avec le siège de la Banque africaine de développement. L'esprit d'ouverture de ce leader a permis à son pays d'avancer et de distancer d'une manière irréversible la Guinée voisine, parvenue à l'indépendance avec infiniment plus de richesses naturelles. Et lorsque le Mali, après 2 décennies d'une aventure monétaire solitaire, a choisi de réintégrer l'imparfaite zone franc, Houphouët-Boigny a été le premier à proposer aux autres États de ne pas humilier ce pays frère en exigeant de lui le ticket d'entrée dont il n'avait pas les moyens. Le vieux avait alors obtenu de ses pairs qu'il réintègre le Mali à charge de prélever sur sa part de bénéfices ce qui aurait dû être son apport au capital. Un peu comme si l'on vous faisait actionnaire d'une entreprise florissante sans bourse déliée pour, avec vos dividendes, apurer ce que vous auriez dû avoir versé dans le tour de table. Parmi les panafricanistes, il faut donc savoir distinguer ceux du verbe de ceux des actes concrets.
Alors justement, Jean-Baptiste, quels seraient les panafricanistes du verbe ?
Ils sont nombreux, États ou citoyens, et vous ne pouvez imaginer la colère de tant d'Africains qui se sont battus pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, en découvrant ensuite que les dirigeants noirs sud-africains gênés se taisaient pendant que leurs concitoyens se déchaînaient contre les Zimbabwéens, les Zambiens et autres Mozambicains venus chercher un mieux-être chez eux. Du temps où ils étaient persécutés, eux trouvaient un accueil généreux en Zambie, au Mozambique et dans les pays dits de la ligne de front. L'Afrique qui se conduit ainsi n'est pas crédible et aucun Africain ne devrait tolérer de telles attitudes.
Merci Jean-Baptiste Placa. L'actualité revient dans un petit peu plus de 3 minutes, mais d'abord de la musique. Et c'est dans notre playlist du mois sur RFI, François and the Atlas Mountains, un groupe de pop franco-britannique. Après 6 albums sortis depuis 2005, le groupe revient avec un nouveau titre annonciateur d'un nouvel opus, H Fleuve. Ça, ce sera le nom de l'album attendu ce mois-ci. En voici un titre, Party, avec un Y à l'anglaise, comme la fête.
Party, du monde des vivants. D'autres fêtes m'attendent plus loin des tables et des gants blancs. Les visages des gens, même ceux que j'aimais, n'ont plus de sens ici. C'est l'immense nuit.
d'Adi. Cette chanson, c'est du silence pour toi, pour toi. Tu explores des chemins. Le grand tout, le grand plein. On ne pense à rien ici.
Extrait d'Ash Fleuve, le nouvel album de François and the Atlas Mountains. Attendu à la fin du mois, c'est dans notre playlist sur RFI. Le journal revient dans un petit peu plus d'une minute. Restez avec nous.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Pour cette première émission de 2025, nous parlons de notre planète et de sa biodiversité au cœur de nombreux enjeux économiques. Protéger les espèces, c'est aussi développer de l'activité et préserver celle des populations concernées. Nous serons en RDC et en Bolivie, au cœur de l'Amazonie.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Dans un monde en constante évolution, une valeur reste essentielle, la confiance, comme celle que vous nous offrez chaque jour.
Ça, c'est des choses qui peuvent nous intéresser parce qu'elle lit des continents, elle lit des histoires aussi. C'est une émission de débat, mais avant tout une émission d'information.
Sur tous les continents, où que vous soyez, dans nos éditions d'information et nos magazines, nous plaçons votre confiance au cœur de notre mission.
Votre confiance, notre raison d'être.
Bonne année 2025 sur RFI.